Sandrine Sailer, Le Nid. Chaque année, des oiseaux nichent dans notre jardin. Le plus souvent des mésanges bleus ou charbonnières, des rouges-gorges, des merles et naturellement des moineaux. L'année dernière, pour la première fois, nous avons eu un couple de sittelles. Ce magnifique oiseau gris-bleu sur le dessus, châtain en dessous, présente une particularité remarquable que je n'ai jamais rencontrée chez un autre oiseau. Il est en effet le seul à descendre le long des troncs d'arbres, la tête la première, ce qui est très étonnant et passionnant à observer. Dans le fond du jardin, nous avons des noisetiers, et j'y ai souvent observé le manège de la sittelle. Elle commence d'abord par descendre à terre à la recherche d'une noisette, et une fois celle-ci trouvée, s'en retourne dans le noisetier. Elle se met alors à parcourir en tous sens le tronc et les branches à la recherche d'un endroit où caler sa noisette. Elle choisit toujours l'intersection de deux branches, y cale soigneusement sa noisette et commence alors à donner des coups de bec dedans pour la percer. Il n'est pas rare que la noisette, sous un coup maladroit, lui échappe et retombe par terre. Elle s'empresse alors de redescendre la chercher et recommence l'opération, et ce, sans ne jamais cependant perdre espoir jusqu'au succès. Cette année, le couple de sittelles n'est pas revenu, mais nous avons déjà eu un nid de rouge-gorge et deux de moineaux. Et malheureusement, comme chaque année et sans que nous ne puissions rien y faire, notre chien a encore attrapé et tué plusieurs petits. Entre 12 jours et 15 jours après la ponte, les petits rouges-gorges quittent le nid. Mais ils ne savent pas encore voler et se dissimulent au sol où leurs parents continuent à leur apporter de la nourriture. Mais même dissimulés, ils représentent des proies faciles et nombreux sont ceux qui n'atteindront jamais l'âge adulte. Vers la fin du mois de juin, un couple de fauvettes à tête noire est venu faire son nid dans la haie de Troène qui se trouve tout au fond de notre jardin. Il y a 2 ans, dans cette même haie de Troène, nous avions eu un nid de fauvettes des jardins. Mais alors que la fauvette des jardins est d'un brun gris uniforme qui n'attire pas trop l'œil, la fauvette à tête noire est, elle, remarquable. Le mâle possède en effet une magnifique calotte noire luisante qui descend jusqu'aux yeux. Et la femelle est, elle, peut-être encore plus belle avec cette même calotte, mais de couleur brun-roux. L'année scolaire venait de se terminer, et ça tombait à pic. Comme cela, j'allais pouvoir consacrer tout mon temps à observer cet oiseau. Le nid, une fois fini, la femelle pondit 5 œufs blancs tachetés de brun rouge. Comment je vis les œufs? Eh bien, c'est simple. Je grimpais dans le grand poirier qui surplombe la haie. Et avec une petite paire de jumelles, je vis très bien l'intérieur du nid avec ses 5 œufs. Dès le lendemain matin, je retournais à mon poste d'observation pour voir si, des fois, il n'y aurait pas un 6e œuf. Non, il n'y en avait pas de 6e, mais je remarquais toutefois que l'un des œufs était plus gros que les autres. Ses couleurs étaient presque les mêmes, quoique légèrement plus foncées. Je le dis à ma mère, qui me répondit alors que je devais avoir la berlue. Elle m'énervait, car elle ne croyait jamais ce que je lui disais. « Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, » disait-elle toujours. « Eh bien, t'as qu'à monter dans le poirier, tu verras si je mens. »« Tu veux une gifle ?» me répondit-elle. « Et puis laisse-moi. Tu vois pas que j'ai du travail, Je ne parlais donc plus de cet œuf trop gros à ma mère. Je me gardais aussi d'en parler à mon père, qui pour sûr m'aurait dit
« Si t'as rien d'autre à faire que de perdre ton temps, tu ferais mieux de te rendre utile à quelque chose et de désherber le jardin. »
Les jours passaient, et je n'en allais pas moins jeter tous les jours un coup d'œil au nid. Du côté du nid, rien ne bougeait. Mais j'avais remarqué que le mâle, un peu plus loin, s'était construit un second nid dans lequel il aimait se tenir pour faire retentir son chant. Au matin du 12e jour, j'eus tout de suite l'intuition que quelque chose s'était passé, car je vis la fauvette mâle traverser le jardin avec une grosse chenille pour se diriger vers le nid. Je m'empressai de monter dans le poirier, en redoublant toutefois d'attention pour ne surtout pas les déranger. Et là, quelle ne fut pas ma surprise en découvrant dans le nid deux oisillons fraîchement éclos. Ils piaillaient à tout va, et les parents s'empressaient déjà de faire la navette pour les nourrir. C'était un spectacle merveilleux, et pour rien au monde, je n'aurais souhaité être ailleurs. Je passai ainsi toute la matinée à regarder les parents les nourrir. J'avais pris avec moi un calepin, et je notais ce qu'ils mangeaient. J'avais inscrit les mots sauterelle, chenille, araignée, larve, etc., les uns en dessous des autres, et à chaque fois que l'un des parents revenait au nid, je faisais une croix en face du mot correspondant. Il n'y en avait qu'une en face du mot papillon, et j'étais bien content car j'adorais les papillons. Ce qui arrivait en tête, c'était les araignées. Et là encore, j'étais bien content car je n'aimais pas beaucoup les araignées. Ensuite venaient les larves, toutes sortes de larves, car je n'arrivais pas bien à les différencier. Le gros œuf était toujours là. Je me demandais s'il allait bientôt éclore et donner un poussin plus gros. Toute l'après-midi, je revins dans le poirier afin d'assister à une éclosion, mais il n'y en eut pas, et je dus me contenter de faire des croix sur mon calepin. Le lendemain matin, dès 9 heures, j'étais dans le poirier. Rien n'avait changé, il n'y avait toujours que deux oisillons, et les parents qui s'activaient déjà à trouver de la nourriture. Et je dois dire que d'une certaine manière, j'étais bien content, car ainsi peut-être, aurais-je l'occasion d'assister à une éclosion. Jusqu'à 10 heures, il ne se produisit rien. Et soudain, je vis la coquille du gros œuf qui bougeait. Je me sentais tout excitée. C'était la première fois que j'allais assister à une éclosion. Je remerciais le ciel d'être en vacances. Un petit trou apparut rapidement dans la coquille. Aux jumelles, je voyais très bien cette petite dent que le poussin avait au bout du bec et qu'il utilisait à merveille pour se frayer un chemin hors de l'œuf. Qu'il avait l'air pressé de sortir. J'avais dû rester les yeux collés trop longtemps à mes jumelles, car il me faisait un peu mal et je voyais légèrement flou. Ce n'était pourtant pas le moment d'avoir des problèmes. Je posai un instant mes jumelles afin de laisser mes yeux se reposer un peu. Quand je les repris, le poussin était déjà à moitié sorti de sa coquille. Il avait les yeux fermés et était complètement nu. Je notai sur mon calepin. Né à 10 heures, une fauvette à tête noire. Poussin complètement nu, sans duvet ni plume. Je me rappelais qu'il s'agissait du gros œuf et constatai qu'en effet, le poussin était un peu plus gros que les deux qui étaient déjà nés. Mais la différence n'était pas énorme. Je descendis du poirier pour aller faire quelques courses pour ma mère. Des courses qui devaient être faites avant midi. Aussitôt après manger, je retournai dans mon arbre. Il restait encore 2 œufs et j'espérais bien les voir éclore. En apercevant la fauvette femelle piquée dans une chenille qui traversait une allée du jardin, l'idée me vint que je pourrais aider les parents à nourrir leurs petits. Je descendis illico de mon arbre et me mis en chasse. Je savais où trouver des chenilles dans les choux. Il y en avait plein. C'étaient de petites chenilles vertes, pas très jolies, celles qui donnent les papillons blancs. J'en attrapai une dizaine et les mis en plein milieu de l'allée. Tout d'abord, les parents ne parurent pas intéressés. Pendant une bonne dizaine de minutes, ils ne vinrent pas. Puis le mâle se posa dans l'allée, à quelques mètres des chenilles, et il s'approcha en sautillant, tout en observant bien tout ce qui se passait autour de lui. Il piqua dans une chenille, puis deux, et s'envola vers le nid. Presque aussitôt, il revint et piqua dans une autre, qui l'emporta aussitôt. La femelle vint à son tour, mais elle semblait plus craintive et n'osa jamais approcher jusqu'aux chenilles. Je continuai ainsi toute l'après-midi à chercher divers larves et insectes pour les aider à nourrir leurs petits. De temps à autre, je jetai une poignée de chenilles tout près du nid pour la femelle. De temps à autre, je remontai également dans mon arbre, voir si aucun œuf n'était sur le point d'éclore. Vers 7h30 du soir, je m'interrompis pour aller manger. À 9h, j'étais de retour. Il y avait eu un malheur. Un des poussins n'était plus dans le nid et avait dû tomber. Je ne mis pas longtemps à le voir par terre et décidai d'aller voir s'il était en vie. Je redescendis du poirier et me mis à ramper jusqu'à la haie de Troène. Je le touchai du bout des doigts, mais il ne bougeait pas. Il avait bien l'air d'être mort. J'aurais bien aimé le remettre dans le nid, mais puisqu'il était mort, ça n'aurait servi à rien. Je me sentais triste. J'avais été si heureux de le voir en vie. J'avais été si heureux ce matin d'assister à une éclosion. Et voilà que déjà l'un d'eux était mort. Je le pris délicatement dans ma main et courus à la maison chercher une petite boîte d'allumettes. Je mis un peu de coton dans le fond et y déposai l'oiseau. Je courus ensuite l'enterrer dans le fond du jardin, dans mon petit cimetière à moi. Il y avait déjà là Jojo le lapin nain, Kiki le cochon d'Inde et Caroline la tortue. Et tous avaient des croix. Je fis une petite croix en noisetier pour le petit de la fauvette et dis ensuite une prière que j'inventai. Puis je remontai dans le poirier pour voir comment les parents réagissaient. À ma grande stupéfaction, il manquait encore un petit. Je restais bouche bée. Je n'arrivais pas à y croire. Mais comment est-ce possible ? Il n'y en a plus qu'un. Ils ne se sont quand même pas battus, car je ne voyais vraiment pas ce qui avait pu se passer. Il n'y avait pas le moindre souffle d'air. Ça ne pouvait donc pas être le vent. Ça ne pouvait pas non plus être un chat, car il aurait détruit complètement le nid. Vraiment, je ne comprenais pas. Et puis soudain, je vis l'oisillon qui restait faire une drôle de chose. Je le vis pousser sa tête et son cou sous l'un des œufs, tout en lançant ses pieds vers l'extérieur et en maintenant sa tête sur le fond du nid. Il fait ainsi passer l'œuf sur son dos en le maintenant en place avec ses ailes trapues. Je suis stupéfait. Je n'arrive pas à croire à ce que je vois. L'oisillon est maintenant debout dans le nid, adossé à l'une des parois, l'œuf sur ses épaules et ses petites ailes relevées pour éviter qu'il ne tombe. L'oisillon commence alors l'ascension de la paroi. Je suis sidéré, car je devine déjà ce qu'il va faire. Je fixe intensément l'œuf et l'oiseau, l'œuf prisonnier entre les épaules de l'oisillon et la paroi, l'œuf qui se rapproche bientôt du bord du nid et soudain bascule dans le vide. Mais ce n'est pas fini. Car à peine l'oisillon s'est-il débarrassé de cet œuf qu'il se dirige vers le dernier œuf restant. Il glisse sa tête et son cou sous l'œuf. Il recommence son manège infernal. Je suis pétrifié d'horreur. Comment est-ce possible que cette chose si minuscule, à peine née du matin, la peau complètement nue et les yeux fermés, ait déjà en elle de tels instincts meurtriers? Cet oisillon diabolique a recommencé son manège, et bientôt je vois l'œuf qui arrive au bord du nid. Et puis plus rien. J'entends un splash. L'œuf s'est brisé. Je descends du poirier et cours dire à mes parents ce que je viens de voir.
Calme-toi, calme-toi.
Mais c'est quand même incroyable ce que je viens de voir. C'est peut-être la première fois que quelqu'un le voit. Un oisillon à peine né et qui s'empresse aussitôt de tuer les autres en les balançant par-dessus bord.
Ce que tu viens de voir est l'œuvre d'un coucou. C'est pour cela que tu avais vu un œuf un peu plus gros que les autres. C'était celui du coucou. Il ne fait pas de nid, mais pond ses œufs dans le nid des autres. Et quand le petit du coucou gris éclot, il s'empresse alors de détruire les petits déjà éclos ainsi que les œufs.
Et la fauvette va l'élever ?
Oui, comme si c'était son petit. Et ce, pendant une bonne vingtaine de jours au nid et encore 3 ou 4 semaines après.
Mais c'est monstrueux! Comment la nature a-t-elle pu produire de tels monstres?
La nature s'est peut-être trompée.
Mais comment la nature pourrait-elle se tromper puisqu'elle ne pense pas?
Justement, tu as raison. C'est bien parce qu'elle ne pense pas que cela a pu être. Il faut alors accepter le fait que la nature produit indifféremment le bien ou le mal. D'ailleurs, bien ou mal, cela ne signifie pas grand-chose pour elle. Il n'y a que pour nous que cela a un sens. Dans la nature, seule compte la loi du plus fort. Et la meilleure preuve que tu en aies est bien ton livre d'histoire. Ne regorge-t-il pas de monstres qui n'ont pas hésité à massacrer tout le monde autour d'eux pour asseoir leur domination ?
Je ne répondis rien à mon père. Je ne savais pas quoi lui répondre. Je dis bonne nuit à mes parents et montai dans ma chambre. La discussion que j'avais eue avec mon père ne me satisfaisait pas vraiment. Il me semblait que quelque part je n'étais pas d'accord, mais sans savoir sur quoi. J'avais l'impression de vouloir oublier tout ce qu'on s'était dit, et de ne vouloir garder en moi que le souvenir visuel de cette terrible expérience. Comme si elle contenait une vérité qui allait bien au-delà des mots, bien au-delà de tout ce qu'on pourrait en dire. Et j'étais sûre que dans 10 ans, dans 20 ans, et même une fois vieillard si je vivais jusque-là, oui, j'étais sûre que jamais je n'oublierais ce que j'avais vu aujourd'hui. Jamais je n'oublierai cet oisillon.